Chers amis de Radio Grand Ciel, bonjour. Hier, nous laissions Thérèse d'Avila qui recevait une maison à Duruello en don. Cette maison qui a été offerte à Thérèse d'Avila pour sa fondation est un lieu modeste que la religieuse surnomme Duruello Bethléem en référence au lieu de naissance de Jésus-Christ. Arrivé à Duruello le 28 novembre 1568, Jean de Saint-Mathias prend alors le nom de Jean de la Croix, qu'il gardera jusqu'à sa mort. Il s'y installe avec deux autres compagnons et porte l'habit de Carme confectionné par Thérèse d'Avila, une bure retenue par une ceinture, le scapulaire de l'ordre et un court manteau blanc. Ils promettent de vivre selon la règle des carmes non réformés qui date du pape Innocent IV. Jean travaille avec acharnement à des ouvrages de maçonnerie en vue de préparer le premier couvent des carmes déchaussés. Ses compagnons et lui prêchent aux alentours, menant une vie très simple et très sobre. Les premières années à Duruello sont marquées par une radicalité importante. Jean de la Croix par évangéliser pieds nus et parfois malgré la neige. Il prêche et prie la nuit, dormant très peu dans des conditions très précaires. La maison n'était pas très bien isolée du froid. De plus, Jean de la Croix pratique une vie intense de mortification. Il porte le cilice et s'impose différents autres types de pénitences physiques comme le jeûne. Il justifie cette dureté par la nécessité de rétablir en lui l'ordre détruit par le péché, mais aussi afin de faire réparation pour les autres. Thérèse d'Avila cherche à modérer ce qu'elle considère comme un excès de pénitence qu'elle juge trop lourd à porter. Pendant qu'un nouveau Carmel déchaussé est fondé à Pastrana, celui de Duruello étant trop petit, ses pratiques extrêmes commencent bien vite à poser problème. Les novices, à présent nombreux, tentent de se démarquer par l'imitation de Jean de la Croix. Il est alors envoyé à Pastrana, où il demande qu'on se limite, dans les pratiques d'austérité, aux seules exigences de la règle du Carmel. Il a compris le danger des excès de pénitence et dénoncera, dans la nuit obscure, les débordements de ses débuts, affirmant, je cite, ce sont des pénitences de bêtes, vers lesquelles, comme des bêtes, on se laisse attirer, trompé par le désir et la satisfaction qui en résultent. La fondation de Pastrana attire de nombreuses recrues. Jean de la Croix fonde également un Carmel à Mancera. Le 1er novembre 1570, alors âgé de 28 ans, il est nommé recteur du collège que la Réforme fonde à Alcalá de Henares. Cette charge ne l'écarte pas de ses études de théologie, qu'il poursuit tout en enseignant au Carme déchaussé. Une rumeur circule selon laquelle Jean exigerait trop d'austérité à ses novices, leur demandant de maintenir la règle de l'ordre, c'est-à-dire déchaussé, tout en étudiant. Étudiant et religieux, mais religieux d'abord. Il est encouragé dans ses démarches lors de la visite d'un dominicain. Jean partira toutefois pour Pastrana pour modérer les pénitences qui y sont pratiquées. Il fera également en sorte que les novices n'aient plus qu'un directeur spirituel pour les suivre et les accompagner en continu. C'est à partir de ce moment que Jean est considéré comme le maître de la réforme. En 1571, un visiteur apostolique, membre de l'Église envoyé par le pape, nomme Thérèse d'Avila, prieure du monastère de la Visitation d'Avila, le grand couvent où elle était entrée à 20 ans pour y conduire sa réforme du Carmel déchaussé. En 1572, elle fait venir Jean de la Croix et le nomme directeur spirituel des religieuses avec un autre Carme déchaussé. Pendant 3 ans, Jean de la Croix va vivre dans une profonde solitude et va accompagner spirituellement les 130 religieuses du couvent carmélite d'Avila. Son accompagnement est d'une grande aide dans l'instauration de la nouvelle règle du Carmel, et il est très vite apprécié par les carmélites. Anne de Jésus affirme, je cite, Elle reconnaît son génie dans le gouvernement des hommes, sa patience infinie, les conduisant à petite allure, sans violence et par des petits moyens, au point qu'il vient à bout des plus délurés qui laissent leur coquetterie et les choses du monde pour se soumettre à sa parole, car elle est à la fois humaine, céleste et pleine d'amour. La conversion spirituelle de Jean de la Croix a sans doute un grand impact sur Thérèse d'Avila, qui commence à écrire ses principaux chefs-d'œuvre et prières, dont la célèbre Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, Dieu seul suffit. Jean de la Croix vit seul dans une maison aux abords du couvent. Il n'a de contact avec le monde que quand il va chez les religieuses pour des directions spirituelles. Très vite, il acquiert une réputation de sainteté à Avila même et il commence à développer sa doctrine spirituelle, notamment en écrivant sur de petits billets qu'il laisse à certaines sœurs des phrases pour les encourager. Il y pousse les religieuses à se détacher des choses du monde, arguant que l'âme qui s'attache à ses appétits n'est pas plus libre pour contempler Dieu que la mouche qui se pose sur du miel pour voler. Il affirme ailleurs que celui qui ne sait pas éteindre ses appétits chemine vers Dieu, tel un homme tirant péniblement un chariot jusqu'au sommet d'une côte. Il encourage ceux qui souffrent. Quand tu portes un fardeau, tu es en compagnie de Dieu qui est lui-même ta force, car il est proche de ceux qui sont dans la peine. Quand tu n'as pas de fardeau, tu es en société avec toi-même, qui n'est qu'infirmité. Pour Jean, le silence est un moyen d'accéder à Dieu, puisqu'il permet de limiter l'expérience des sens et réduit les activités désordonnées de l'intelligence. Il affirme, le Père a dit une parole qui est son Fils, et il l'a dit toujours dans un éternel silence, et c'est seulement le silence que l'âme entend. Jean fuit toute lecture qui n'est pas la Bible et évite les sentiments pour n'éprouver plus que la foi pure. C'est à travers cette recherche qu'il découvre l'expérience de ce qu'il appelle la nuit de la foi. À demain.